BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end, ça c'est le plus important, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que vous nous regardiez en exclusivité ou nous écoutiez en exclu dès le vendredi ou que vous soyez tranquillement devant BFM Business, à la radio, à la télé, bienvenue dans ce De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech. Donc de la fin de la semaine, 52 minutes pour revenir sur toute l'actualité de ces derniers jours avec... Je vous le rappelle, en exclu, pour tous ceux qui sont avec nous en podcast audio, eh bien, quelques minutes supplémentaires, c'est le module bonus, comme on appelle. Avec deux modules spéciales, actu, beaucoup de choses cette semaine. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, bien évidemment, sur les réseaux pour réagir. Encore une fois, bienvenue, c'est parti. Et pour ce de quoi je me mêle, bien évidemment, le pilier de cette émission, il est là, c'est Anthony Morel.
Je suis ravi que tu me présentes comme ça, un pilier carrément. Ça monte de semaine en semaine, c'est vraiment de mieux en mieux.
Je ne sais pas jusqu'où je peux aller. D'autant que la semaine prochaine, c'est toi qui prends les commandes de
quoi
pareil.
Je me mêle. Ouais, absolument. Et préparez-vous psychologiquement.
Mais attends.
Le patron ne sera pas là.
Moi, je prépare les pop-corns parce que pour une fois, je peux regarder les De quoi je me mêle sans regarder. Ça, c'est cool.
C'est vrai.
C'est sympa. Et ça veut dire aussi que je suis en vacances la plupart du temps.
C'est sympa
plutôt,
aussi.
C'est plutôt sympa. Anthony Morel, donc journaliste à BFM Business. Et puis, JB de The E-Collection qui est avec nous. Salut, JB.
Eh bien, bonjour.
Salut.
Ravi de te retrouver, JB. Ça va? T'as pas le jet lag, tout ça, tout s'est bien passé?
Pour le mieux. Très content d'être ici une nouvelle fois.
Oui, je parle de jet lag parce que tu étais à Cupertino,
yes.
Tu étais à la WWDC, on va en parler tout à l'heure, parce que tu as des petites infos croustillantes à nous raconter.
Mm-hmm. Le teasing.
JB a testé Apple Intelligence.
Ah.
Tu nous diras si c'est vraiment si intelligence que ça.
Ouais.
Ça va être intéressant.
L'intelligence artificielle d'Apple. Ah non, c'est vrai qu'ils appellent ça différemment.
Apple Intelligence.
Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Plus classe,
c'est beaucoup plus
cool.
Classe. Ouais.
Ben voilà, bien sûr. Mais pour débuter, on va parler justement d'intelligence artificielle, mais vu par un autre industriel, un constructeur et un éditeur de logiciels, c'est Microsoft, qui sort ses premiers PC Copilot Plus. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une vraie révolution dans le monde du marché du PC, parce que ça va être des PC beaucoup plus fins, avec beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus intelligents, qui ne tourneront plus sous processeur Intel, en tout cas au début. Enfin, il y a une petite révolution.
Absolument.
Anthony, tu voulais nous en parler pour débuter.
Oui, c'est ça, c'est du Qualcomm, pour le coup, des Snapdragon qui font tourner ces ordinateurs, donc c'est des Surface PC, donc ce mélange tablette, PC, dopé à l'intelligence artificielle, évidemment, c'est pour ça qu'il s'appelle Copilot Plus. Donc, on voit la petite différence, c'est qu'il y a une touche, la touche Copilot qui est intégrée maintenant à l'ordinateur, comme tous ces PCIa dont on a eu l'occasion de parler. C'est quand même la première fois depuis 1994 qu'il y a une nouvelle touche, un nouveau bouton sur les claviers des ordinateurs, depuis la touche Windows.
Les tractations entre les constructeurs des PC Microsoft,
c'est clair.
Ça a dû être chaud. Hein.
Absolument. Alors là, c'est facile.
Bon, les gars, on la met où la touche? On la met où cette touche?
Non, mais c'est vrai. Cela dit, c'est vraiment, on ne touche pas à ça si facilement que ça. Bon, là, c'est du Surface, donc forcément, ils ont un petit peu plus de latitude, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin, quand même.
Mais juste du coup, si on rajoute un clavier externe.
Ah
pas, comment ça se passe?
Non, t'as pas...
Quelle touche après, quoi
c'est une bonne question.
Tu prends l'autocollant et tu renommes une touche Copilot.
Non, après, je pense que sans la touche, t'as évidemment accès à Copilot autrement via le menu.
Tu vas pouvoir t'en servir.
Alors, tu fais quoi comme touche sur un clavier normal?
J'ai pas envie de te dire de bêtises, elle est juste à côté du pavé tactile sur les PC portables, à gauche du pavé tactile. Et elle est, je sais plus exactement.
Alors attends, moi j'ai un PC à gauche, j'ai Alt,
ouais.
Après j'ai la touche Windows.
C'est ça, je crois qu'elle est entre Alt et Windows.
Et après il y a la touche Fonction.
Ou la touche Fonction, oui c'est ça, ou c'est entre Alt et Fonction. Enfin c'est à cet endroit-là quoi, en gros. Si tu peux pas la rater, de toute façon il y a le petit logo Copilot dessus, donc tu appuies et tu as accès à tout l'écosystème intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant au-delà, parce qu'on dit PC Copilot. Bon, Copilot, en fait, t'as pas besoin d'avoir un PC IA pour accéder à Copilot. Avec Windows 11, tu y as accès de toute façon.
Oui.
Mais l'intérêt d'avoir un PC IA, c'est que tu vas pouvoir y avoir accès beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace, surtout avec beaucoup moins de latence. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ces ordinateurs, c'est ce qu'on appelle un NPU, donc un Neural Processing Unit, qui va venir compléter le GPU et le CPU et qui va venir déporter une partie de la charge, en gros toutes les tâches.
Le petit cerveau d'intelligence artificielle.
Voilà, et ça va permettre en fait sur ces tâches très spécifiques de décharger le GPU et le CPU et donc en fait d'aller beaucoup plus vite en natif, en local, directement sur l'ordinateur. Donc ça c'est un point qui est évidemment extrêmement intéressant quand on utilise l'IA au quotidien. On va pouvoir aussi avoir, grâce à ça, donc moins de latence, mais aussi plus d'autonomie. Ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on sait que l'IA, c'est quand même des choses qui sont très, très gourmandes en énergie. Donc là, tu vas pouvoir avoir une autonomie renforcée. Et puis, tu as un certain nombre aussi de fonctionnalités IA qui ont été ajoutées par Microsoft. On peut en donner deux ou trois. Tu as par exemple un outil qui s'appelle Co-Creator, qui est intégré à Paint. En gros, c'est Paint, mais avec de l'IA à l'intérieur, le bon vieux Paint. En gros, tu vas faire, je sais pas, tu dessines un petit croquis et il va te faire un dessin. Ouais, c'est ça. Tu lui donnes une toute petite source d'inspiration et en fait, il va te faire un truc absolument magnifique. Ou encore un outil qui s'appelle Live Captions.
Moi, je crois que j'ai jamais utilisé Paint de ma vie.
De ta vie ?
Ouais,
attends.
Pour faire quoi ?
Des dessins quand t'es enfant ou plus jeune.
Ouais, moi je m'amusais, je faisais n'importe quoi sur Paint. Ouais, c'est ça.
Écriture, Word Art et tout ça. Là,
ouais, c'est clair. Ou tu prenais la petite bombe de peinture, tu sais, tu faisais du spray et tout.
Ah, moi, oui, peut-être.
Oui, non, mais aujourd'hui ça paraît un peu risible, mais moi quand j'avais Windows 3.1 chez moi, Paint c'était le logiciel le plus perfectionné de l'ordinateur.
C'est vrai.
Non, mais c'est.
Et toutes ces fonctions donc arrivent avec une nouvelle génération d'ordi.
Ouais.
C'est ça, hein, donc il faut qu'il soit compatible Copilot Plus avec un changement de structure technologique, hein, puisqu'on abandonne Intel, en tout cas pour l'instant, parce qu'Intel va sans doute revenir dans la danse, mais là c'est Qualcomm qui va arriver sur les PC, c'est quand même un bouleversement. Tu as envie peut-être de tester un peu
Je vais
ces
tester,
machines.
Justement, parce que moi je suis extrêmement curieux, alors je suis beaucoup plus Mac que PC, j'ai que des Mac, je teste rarement des PC, mais je suis quand même curieux parce que d'avoir toute l'IA intégrée dans des PC, mais que ce soit fait sur mesure avec le hardware et le software qui fonctionne en symbiose. C'est là où c'est séduisant, c'est comme Apple où c'est séduisant parce que c'est fait ensemble.
Ou Google et Pixel.
Ou ouais, exactement, les Google Pixel. Là, ça donne envie parce que je pense qu'on peut gagner du temps sur pas mal de choses dans la rédaction des mails, sur tout un tas d'intelligences artificielles qui sont rajoutées. Donc ouais, je suis très curieux. Et je crois que ça commence à arriver là en ce moment même en magasin.
Les premiers PC Copilot Plus arrivent. Ils sont un peu plus chers que les PC normaux. Hein.
C'est ça. C'est aussi un moyen évidemment pour les fabricants de monter en valeur.
Et puis de rebooster le marché.
Bah, c'est clair. Parce que là, tu les trouves, je crois que les moins chers doivent être autour de 1 000 €. Donc c'est quand même, pour un ordinateur portable, évidemment, c'est une somme. Après, vu la valeur ajoutée technologique, c'est pas complètement délirant
c'est
non
pas
plus.
Hein. Après, il faut voir si ça sert à quelque chose et si c'est pas du marketing.
Bien sûr.
Est-ce qu'au quotidien, tu vas te servir de ces fonctions d'intelligence artificielle ?
Alors moi, je suis persuadé que oui, mais encore une fois, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir spécifiquement un ordinateur copilote pour pouvoir avoir accès. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est
tu
la valeur ajoutée.
Tu bien évidemment, sur n'importe quel
c'est
device,
exactement ça. Et la plupart des outils, alors peut-être Paint, faudrait voir, mais pour le reste, l'interface copilote qui va s'intégrer en fait à la suite logicielle Microsoft, hein, donc tu as du copilote dans Word, dans PowerPoint, dans Excel, donc c'est génial, parce que dans Word, tu vas pouvoir avoir, je sais pas, réécrire un texte,
mettre en forme,
demander de réécrire un texte mais dans un ton plus formel ou dans un ton plus familier, Excel, avoir de l'analyse de données au-delà du fait d'avoir juste ton tableur Excel, PowerPoint pour pouvoir te proposer des slides personnalisés en donnant quelques éléments de contexte, c'est génial de ce point de vue-là, mais encore une fois, pour moi, le vrai avantage de ces PC copilotes pour l'instant par rapport, enfin leur avantage concurrentiel par rapport au reste des ordinateurs, c'est le fait d'avoir un NPU et donc de pouvoir limiter les temps de latence et d'être moins gourmand en énergie. Pour moi, ça se joue surtout là-dessus pour l'instant.
Anthony, alors quand même, petit dérapage pour Microsoft, parce qu'un lancement, il faut un petit dérapage.
Toujours.
Ça sert à rien. Hein. Il faut qu'à un moment, on trébuche.
Ouais.
Et c'est la fonction recall qui a été la controverse de ces dernières semaines.
Absolument, et qui s'est fait striker en définitive. Microsoft a renoncé au moins temporairement à cette fonctionnalité. Alors recall, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est en fait, alors c'est vraiment typiquement le truc où c'est une bonne idée sur le papier, mais qui se transforme en cauchemar pour l'utilisateur en termes de surveillance et de protection des données une fois que tu la mets en place. Recall, c'était l'idée de donner à ton ordinateur une mémoire photographique, c'est-à-dire te permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir retrouver tout ce que tu as fait sur ton ordinateur ces 3 derniers mois. Tu vois, je te donne un exemple concret. Tu sais que tu as vu à un moment sur ton ordinateur une super recette de risotto. Mais tu sais plus exactement quand c'était. Tu sais plus sur quel site c'était. Tu te souviens juste, ah ouais, j'ai vu passer cette recette, c'était génial ce truc-là.
Et t'as pas envie de te taper toute l'historique de ton navigateur.
Évidemment, sur les 3 derniers mois, c'est un peu compliqué. Donc tu tapes risotto dans Recall et il va te montrer la capture d'écran du moment.
Il va te faire le risotto directement.
Ça, c'est pour la V2, ça.
Ah ouais, ça, c'est copilote plus chief.
Ah, c'est clair. Là, il n'y aurait pas eu de controverse. Là, moi, j'aurais
payé
le risotto en payant très cher.
C'est pas copilote, c'est cook pilote.
Oh oui, très bon, cook pilote. Ça serait génial. Ce serait génial. Bah, remarque, et cela dit, demain, tu pourras avoir la recette avec ChatGPT. Et puis, tu auras le robot, figure AI, qui peut te faire la recette sous tes yeux. Enfin, bon, ça, on se projette un petit peu, mais c'est des choses qui probablement arriveront un jour.
Bref. Évidemment.
Donc, tu as la capture d'écran qui arrive. En tapant juste risotto, il va te retrouver la capture d'écran. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'en fait, Recall, toutes les 5 secondes, quand tu utilises ton PC, il fait une capture d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran, une capture d'écran.
N'importe quand?
N'importe quand. Et c'est tout le problème, en fait.
Eh ben
c'est
oui,
que, en gros, tu tapes un mot de passe, il chope le mot de passe. Tu vas sur le site de ton compte bancaire, un compte rendu médical, des trucs alors, qui sont stockés en local, en théorie. Enfin, attends, cas de piratage, puis bon, t'as pas forcément envie qu'on te fasse des captures d'écran de tout ce que tu es en train de faire à tout moment, quoi.
Ta session est ouverte, quelqu'un peut, je sais pas après comment ça se passe, mais tu peux remonter dans le recall d'un ordi de n'importe qui à partir du moment où toi tu t'en vas et que la session est ouverte.
C'est stocké en local sur le PC en lui-même.
Ouais, c'est stocké en local sur le PC. Alors Microsoft, quand il y a la polémique a commencé à enfler, et d'ailleurs c'est Elon Musk qui a mis une petite pièce dans le jukebox.
Oui, c'est lui qui a commencé.
Qui a commencé en disant, non mais attendez, ce truc, on dirait un truc tiré de Black Mirror, la série complètement dystopique et tout ça, jamais j'utiliserai ce truc-là. Et effectivement, tout le monde a commencé à se dire, mais attendez, c'est quoi cette fonctionnalité? Alors Microsoft a essayé de donner des gages en disant, non, mais attendez, c'est stocké en local, les données ne sont pas accessibles par Microsoft, on ne les utilisera pas pour nourrir nos moteurs d'intelligence artificielle.
C'était trop tard, de toute façon.
Mais c'était trop tard. Donc au final, ils ont dit, l'option qui était quand même, de base, tu pouvais opt-out si tu avais envie, mais de base, c'était quand même intégré au PC Copilot Plus et toutes ces fonctionnalités-là étaient là de base. Ils ont dit, bon, finalement, on va faire que ce soit opt-in, il faut s'inscrire pour y avoir accès, et finalement, ils ont dit, bon, on va arrêter. Donc, je crois qu'il y a les bêta-testeurs Microsoft qui continuent à y avoir accès pour pouvoir tester la fonctionnalité, peut-être l'améliorer, peut-être que ça reviendra sous une autre forme à un moment, mais pour l'instant, Recall, c'était la fausse bonne idée. Parce que je pense que franchement c'est pratique, ça dit, de pouvoir retrouver des trucs. Moi, il y a combien de fois tu t'es sûr d'avoir vu un truc, mais t'as pas envie de te retaper ton historique,
non, mais
évidemment.
C'est clair, ça part d'un bon sentiment, mais c'est compliqué d'avoir 3 mois de.
De stockage de données. Ouais.
Mais ça stocke sur l'ordinateur, sur le stockage de l'ordinateur.
Exactement,
ça prend énormément de place.
Ça prend de la place.
Si toutes les 5 minutes, on a une capture d'écran qui est prise.
5 secondes.
Toutes les 5 secondes.
C'est impressionnant. Après, peut-être qu'avec l'IA, ils arrivent à compresser tout ça.
J'imagine que, tu vois, ça doit être optimisé, mais effectivement, c'est stocké sur ton ordinateur, donc ça prend de la place sur ton ordinateur, ça c'est sûr.
Et après, juste question sur la différence entre Copilot Plus sur des PC et ceux qui n'ont pas Copilot Plus en mode embarqué. Quelle est la vraie différence? C'est que Copilot Plus va être embarqué dans les applications Word, Excel, PowerPoint et tout ça.
Alors ça, c'est encore un truc
c'est Office 360.
Exactement.
Avec une option payante mensuelle qui te permet d'avoir ces fonctionnalités dans Word, dans PowerPoint, dans Excel, etc. Ouais. Mais tu n'auras pas dans Copilot Plus. Copilot Plus, c'est gratuit. C'est gratuit, tu achètes ça. Ouais. Et c'est vraiment intégré à l'OS Windows 11.
Ça. Exactement.
Et tu n'auras pas toutes les fonctionnalités Office.
Donc là, ils sont malins parce qu'en fait, ils gagnent sur les deux tableaux. Ils vont vendre du hardware avec des fonctionnalités IA et puis ils vont vendre du soft plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, Microsoft Office, ça fait partie des vaches à lait avec Azure, avec le cloud, etc. Mais ça rapporte de l'argent, évidemment, des revenus récurrents. En plus, c'est hyper intéressant parce que c'est des revenus mensuels ou annuels. Et donc là, tu vas avoir une version premium avec l'IA qui va être commercialisée un petit peu plus cher. Voilà. Donc c'est. C'est très malin. Encore une fois, on voit le sens, tout le sens stratégique du partenariat que Satya Nadella a mis en place avec OpenAI et qui va payer au centuple en réalité sur les années qui viennent. Donc c'est vraiment un très 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 beau coup qu'ils ont fait.
Et comptez sur nous bien sûr pour tester ces PC quand ça sera possible parce que c'est vrai que c'est la promesse est intéressante.
Je trouve aussi.
À voir maintenant si c'est bullshit ou si véritablement ça va changer nos usages.
Je crois qu'il y a aussi d'autres constructeurs, les nouveaux
Ah non, bien sûr. Ça arrive sur tous les constructeurs de PC qui vont sortir leur Copilot Plus.
Leur Copilot Plus, ouais.
Bien sûr. Ouais. Asus.
Et là, Microsoft a présenté ses surfaces. C'est pour ça que je parlais des surfaces, mais oui, tout le monde va s'y mettre.
Lenovo, etc. Dell aussi, tout le monde va s'y mettre. Et ça va être. Les lancements, là, sont prévus jusqu'à la fin de l'été pour être prêts pour la rentrée, pour le back to school, le fameux back to school. Là, je pense que à la rentrée, tous les magasins seront inondés de ces nouveaux PC.
Je pense qu'il y a un vrai... tu posais la question de la valeur ajoutée, et je pense que c'est la bonne question. Chez les professionnels, dans un premier temps, ça va être hyper intéressant. Je pense que dans la vie en entreprise, tu as quand même des gains de productivité qui sont énormes. Si tu peux gagner du temps sur tes présentations PowerPoint, les mails auxquels tu peux répondre, etc. Ne serait-ce que, voilà, les gains que tu vas réaliser en termes de temps justifient l'investissement. Ouais. Pour les particuliers, c'est moins évident, pour l'instant, je trouve. Même si tu as des fonctionnalités rigolotes, sympathiques et tout, mais c'est moins évident.
On en parlait la dernière fois dans un De quoi je me mêle sur Windows 10, Windows 11, la passation, qu'il fallait changer son PC justement.
Oui.
Bah voilà, les PC ils sont là. Ceux qui doivent changer leur PC mais parce qu'ils n'ont pas à jour.
Allez.
Ils doivent acheter cela.
Bah exactement.
Vous avez bien 1000 balles qui traînent quelque part.
Bah oui, c'est ça.
Faites-vous plaisir.
Jetez l'ancien, on s'en fiche.
Ouais, c'est
ça sert à rien.
Oui, et puis l'écologie, on s'en fout.
Pas grave.
C'est pas
on
grave.
En reparlera à la prochaine keynote, mais c'est pas grave.
Allez, on enchaîne avec Samsung, qui va sortir aussi d'ailleurs des PC Copilot Plus.
Bien sûr.
Parce que Samsung est un constructeur de PC, c'est intéressant. Et qui met de l'IA un peu partout. On se rappelle du Galaxy S24 qui a été l'un des tout premiers smartphones à intégrer de l'intelligence artificielle. Samsung avait bien joué son coup là. Eh bien, cette IA, Anthony, arrive aussi dans les télés.
Ouais, il n'y a pas de raison. De toute façon, on met de l'IA partout.
Il y avait déjà un peu depuis quelques années.
Oui, c'est vrai, avec la télé 8K. Ouais.
C'est vrai. Mais là, pour le coup, ils en font un argument, y compris un argument marketing. Bon, c'est un peu tout ce qu'on a vu lors du CES, en fait. C'est-à-dire cette idée qu'on va mettre vraiment de l'IA dans tous les appareils électroniques et électroménagers de la maison. Et donc, il n'y a pas de raison que la télé y échappe d'une certaine manière. Et donc là, ils ont lancé leur télé. Alors, j'ai écrit le nom.
Le Pika, non ?
Voilà, t'es fort, balèze. Parce que franchement, les noms des télés, moi j'avoue, non, mais tu vois, ouais, c'est ça. QLED 8K.
Je serais pas un bon vendeur. Hein,
non, je serais très mauvais chez Boulanger ou chez Darty.
Vous savez quoi Attendez, prenez.
L'autre là, enfin.
Le truc là. Je vais prendre le catalogue. Ouais, bougez pas. Ne bougez pas, hein. Vous
non,
restez
mais,
là.
Non, mais il y a un vrai sujet là-dessus quand même.
Ouais,
autant,
sûr.
Tu vois, sur les smartphones. Ils arrivent à donner des noms un peu sexy et tout.
À retenir
sur les télés, les ordinateurs portables.
Les frames et tout ça.
Ouais, ouais, d'accord. Facile. Les frames, ouais, ok. Mais sinon.
Après, c'est 65 QW, oui, XZ.
C'est clair. Ça doit correspondre à une nomenclature hyper précise. C'est génial pour eux en termes de logistique dans les usines. Ça va être très pratique pour les trouver. Mais alors pour les consommateurs, c'est pas forcément évident. Bref. Donc on a ces modèles.
Télé IA.
Donc, alors là encore, est-ce que c'est juste un argument marketing ou est-ce que ça va être une vraie révolution dans nos salons? Je vous donne quelques-uns des éléments qui sont mis en avant par Samsung, qui ne sont pas complètement déconnants, mais vous allez voir, le prix aussi, ça pique un petit peu. Premier argument, c'est la possibilité, grâce à l'IA, d'upscaler l'image, mais de manière extrêmement... sophistiqué.
Ouais, t'as une image 1080p, tu la passes en 4K.
C'est exactement
ça. T'as une image 4K, tu la passes en 8K si t'as une télé.
C'est exactement ça. Tu vas pouvoir monter jusqu'au 8K, donc c'est quand même assez costaud. Bon, on a vu des outils d'IA qui, sur des images fixes, pouvaient dépixeliser une image ou en augmenter la résolution. Là, on est sur un flux d'images en continu et tu arrives à avoir l'équivalent du 8K. C'est quand même pas mal. De ce point de vue-là, c'est intéressant.
IFA en 2018. Ils présentaient exactement la même chose, Samsung et tous les constructeurs, avec l'upscaling justement des contenus où tu passes du 1080 en 4K et ils commençaient à dire de la 4K à la 8K.
Ouais, ah, voilà. C'est vrai.
Mais je pense que tu n'avais pas encore cet argument marketing IA, c'est juste ça, mais tu as raison. Non, c'était
juste un rebranding avec finalement l'IA.
C'est une forme de rebranding.
Puissant, ah ouais, mais en fait,
c'est des algorithmes que Samsung avait dans son tiroir depuis des années.
Exactement.
Là, comme on surfe sur l'IA, ils disent, bah tiens, on va appeler ça IA, c'est pas mal.
Tu as tout à fait raison. Alors ça, c'est le premier truc. Je vous donne les autres points, mais peut-être que certains d'entre eux étaient déjà effectivement dans les tuyaux au moins. La possibilité de s'adapter à ce que tu es en train de regarder en temps réel et de te proposer des réglages en fonction. C'est-à-dire, en gros, la luminosité, les contrastes ne vont pas être les mêmes si tu regardes un film d'horreur ou si tu regardes un match de foot. Bon, bah là, en gros, la télé va comprendre ce que tu es en train de regarder et va faire les réglages pour toi de manière optimale. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que, par exemple, si tu es en train de regarder un match de foot, elle va comprendre que tu regardes un match de foot. Elle va comprendre que ce qui t'intéresse, c'est de suivre le ballon principalement. Donc, la netteté de certains éléments à l'écran, genre le ballon, vont être particulièrement focalisés. D'autres éléments vont être un petit peu floutés. Enfin, en gros, on va faire en sorte d'optimiser l'expérience de visualisation du téléspectateur. Je trouve que c'est intéressant. Encore, faut tester.
Faut tester.
Faut voir pour de vrai, est-ce qu'il y a une vraie différence, une vraie valeur ajoutée.
Souvent, leur démo en magasin, justement, marche extrêmement bien.
Ouais.
Une image à côte à côte et tu vois le ballon qui passe de gauche à droite.
Vraiment,
la définition hyper nette.
Mais est-ce que c'est honnête? C'est ça le truc. Parce que
est-ce on peut pas savoir chez soi finalement quand on teste, puisqu'on n'a pas les deux.
Bah non, on
n'a
pas les deux. Tu vas pas avoir deux télés pour dire attendez. Ok, là je vais comparer maintenant.
Allez,
j'ai mon petit carnet.
T'invites tes copains à la maison. Eh, c'est quand même vachement mieux sur l'écran de gauche, les gars.
Vous avez pas vu?
Oui, mais t'as deux télés quand même,
on rembobine.
Mais tu vois. Oui, puis c'est vrai qu'il faut dire aussi, pour ceux qui nous écoutent, que. quand on va sur, alors dans les magasins de télé, mais même sur les salons et tout, quand t'as tous ces écrans de télé magnifiques, les images qui sont choisies pour c'est toujours des trucs, mais
ouais, des trucs incroyables,
avec des fruits, des trucs exotiques,
oui, des chats,
machins. C'est jamais, tu vois, la nuit pluvieuse à Dunkerque.
Non,
tu vois, c'est rarement ça, on va dire.
Ouais, parce que la nuit pluvieuse à Dunkerque en HDR, ça pète pas.
Même si Dunkerque est une très belle ville,
à Paris, ça marche aussi. Hein.
Ça fonctionne aussi. Ouais. Mais non, mais c'est pour dire que voilà, ils trichent un peu, ou en tout cas. Ils jouent sur leurs atouts, ils ont raison de le faire de toute façon.
Est-ce qu'il y a pour améliorer les effets spéciaux des films comme Sous la Seine qui sont ratés, par exemple? Ça serait pas
mais je l'ai pas vu, moi, me spoil pas. Hein,
non,
ce serait dommage.
Vu.
Parce que...
J'ai pas vu, mais j'ai vu un extrait, waouh. Wow.
Ouais, mais moi j'adore les films de requins, donc je m'en fous. En fait, même si c'est un nanar, je pense que j'ai Sharknado et tout ça, moi je suis public, moi j'adore.
Vous allez voir, les effets spéciaux, on dirait que parfois c'est fait avec une Mega Drive de 93.
Enfin, très bonne console, la Mega Drive.
Ouais, très bonne console.
Excellente.
Mais pas la plus puissante du moment.
Non, c'est vrai. Il n'y avait pas d'IA.
Ok, pour la télé,
ouais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre actu Samsung qui sera, je pense, un petit peu plus épaisse et là, qui voilà, va valoir le détour. C'est cette date qui circule, JB. Visiblement, c'est un secret de Polichinelle. Le 10 juillet prochain, Samsung va dégainer de nouveaux produits.
Beaucoup de nouveaux produits. Chaque année, Samsung, à l'été, propose à l'époque de base la gamme Note, qui a totalement disparu et qui a été remplacée par la gamme Fold et Flip. Les fameux smartphones qui se plient.
Alors ça, c'est toujours en août, en général, qui présente ça.
Actuellement, c'est mi-août, fin août. Non, c'est début juillet. Voilà. Je pense que Samsung va le faire début juillet.
Ce qui est pas mal, parce qu'on est un peu moins en vacances.
Ils seront aussi partenaires majeurs des Jeux Olympiques de Paris. Donc, il y a quand même une carte à jouer.
Tout se coïncide, là, c'est ça. Donc, la date du 10 juillet, 15 jours avant le début des JO.
Et paraîtrait-il que la date de sortie des smartphones serait le 26 juillet. Date de la cérémonie d'ouverture
comme par hasard.
Des Jeux Olympiques.
Mais comme par hasard. Ouais,
vraiment, c'est très très malin.
Mais vraiment, ils sont très très forts. Hein,
comme ça, tu peux acheter un Samsung dernier cri pour aller filmer la cérémonie d'ouverture.
Mais ils font plein de trucs sympas, Samsung. J'ai vu que certains plans de la cérémonie d'ouverture des JO seraient tournés avec des Galaxy S24 Ultra.
Ah ouais.
Qui seraient posés un peu partout, tu sais, sur des bateaux, sur des ponts et tout. Et ils vont faire des trucs, paraît-il, assez intéressants. Ils ont passé un accord avec Orange, d'ailleurs, sur ce sujet.
Okay.
C'est pour mettre en avant à la fois la puissance du S24 Ultra et la qualité du réseau Orange.
Ouais,
donc, ils vont faire des retransmissions directes.
Ils ont confiance sur la qualité du réseau Orange lors de la cérémonie d'ouverture.
Ouais.
Avec le nombre de personnes qui auront tout autour.
Ouais.
Mais t'as pas vu, enfin on en a parlé, mais ils switchent tous les abonnés Orange en 5G pour libérer la 4G pour les touristes.
Aussi d'ailleurs. SFR et Bouygues.
Je crois qu'ils le font.
Ouais, tout le monde s'y est mis. Ouais.
Et revenir aux annonces Samsung, il y aurait Z Flip 6 et Z Fold 6.
Donc nouvelle génération de clients.
Nouvelle génération qui bouleverserait pas non plus la baraque. Pour le coup, on aurait un Z Fold 6, c'est le fameux petit livre qui se plie, qui lui aurait un format un peu plus carré. On perdrait des bordures et il serait un peu plus ressemblant au Galaxy S24 Ultra. Donc avec vraiment des bords francs, plats et rectangulaires.
Ouais.
Parce que c'est un format plus adéquat quand on l'ouvre et quand on le ferme pour l'utiliser à une main ou à afficher des applications. Le Z Flip 6, lui, aurait comme principale grosse nouveauté en fait un meilleur appareil photo. Parce que c'était souvent ce qui lui était reproché, c'était que son appareil photo était en deçà de ce que les autres peuvent faire sur la gamme de chez Samsung.
Donc il rattraperait en fait les générations.
Et en fait, il aurait la nomenclature entre guillemets de la gamme S24. Donc un grand angle de 50 millions de pixels et tout ce qui s'ensuit.
Pas mal.
Donc ce serait vachement intéressant. Et une meilleure batterie. Parce que c'est ça aussi qu'on peut reprocher au Flip de Samsung, c'est la batterie qui tient pas non plus une grosse journée. Donc ça serait les deux principales nouveautés pour les smartphones, qui vaudraient encore assez cher, entre 1200 et 2000 euros.
On commence à en voir un peu quand même des.
Faut payer le sponsoring des
vidéos. Oui, c'est vrai, forcément.
C'est un bras, cette histoire.
Non, mais j'ai l'impression d'en voir un peu plus, tu vois, qu'il y a un ou deux ans même.
Non, c'est pas qu'un effet de mode.
C'est ça.
Moi, j'ai plein de. J'ai plein de connaissances qui ont acheté beaucoup le Z Flip, moins le Fold.
Il est moins cher.
Il est moins cher.
Et le format qui se plie, qui se met facilement dans la poche.
Ah, moi, j'adore.
C'est nostalgique parce que ça rappelle les clapets de l'époque.
Ouais.
Et il est vraiment.
Il a Game Boy Advance. Game Boy Advance SP. Moi, ça me rappelle ce format-là à chaque fois. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce format-là. Je le trouve très sympa.
Puis, toi qui es sous Android, c'est vrai que tu pourrais tester ce
truc-là. Ouais, c'est vrai. J'avais testé, mais après, j'en reviens souvent au Pixel parce que j'ai mes habitudes et tout ça. Mais en réalité, c'est vrai que j'aime bien ce format-là. Et je pense que ce qui contribue aussi à son succès, alors tout relatif, parce qu'on n'en voit pas non plus partout et ça reste des téléphones assez chers. Mais il y a le côté aussi, parce que ça joue quand on achète un smartphone, différenciation sociale. Parce
bien
que tu as ce truc de. Un téléphone qui ressemble pas aux autres téléphones. voilà, les gens ils le sortent dans le train, dans l'avion.
Ça intrigue
évidemment. Ça joue aussi, hein, ça fait, c'est aussi un des éléments qui pousse à l'achat les gens.
Et tu sais que Pixel a sorti son Fold d'ailleurs aussi.
Bien sûr.
Mais qui est en version...
En France. Le dernier, sorti, si.
Le Pixel Fold n'est pas sorti en France.
Attends, c'est pas l'avant-dernière version,
je crois
qu'elle était
l'avant-dernière
sortie.
Version, mais que nouveau est sorti, je crois. Hein. Mais on va vérifier.
En tout cas, la concurrence est de plus en plus rude.
Mais on le trouve facilement sur Internet, en fait. Tu vas sur n'importe quel site, tu peux l'acheter en importation, parce que je crois qu'il est dispo en Allemagne ou en Angleterre, donc ils te le livrent. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le même... Là, tu l'ouvres comme un livre, en fait.
Oui,
c'est
exactement.
C'est pas comme un flip, voilà.
Mais tous les constructeurs aujourd'hui, Huawei, Oppo, Honor, font tous des smartphones qui se plient, et de plus en plus fins. Donc Samsung, qui de base est le leader, a énormément de concurrence et justement ils vont essayer avec les Flip 6 et Z Fold 6 de contrer ça pour rester les premiers.
C'est lequel qu'on avait testé, François, tu sais, qui était vraiment ultra fin quand on l'avait plié, là, qui nous avait bluffé.
C'est le Honor Magic.
C'était le Honor ?
Ah ouais, mais alors ce téléphone, moi, il m'a donné une claque incroyable.
Moi aussi.
Et je pense qu'il a dû donner une claque aussi à Samsung.
Et c'était il y a 6 mois, non ?
C'était plus de 6 mois, c'est dingue. Et ça va être intéressant de voir si justement... Samsung rattrape ses erreurs, fait un téléphone plus fin, vraiment qui se plie véritablement sans la petite espace.
Il y a déjà plus
espace.
Le petit gap d'air à l'intérieur depuis une ou deux générations, donc il n'y a plus ça. Donc déjà, c'est mieux, c'est vraiment plat quand on le plie. Mais de ce que normalement, ça devrait sortir, ça ne devrait pas être aussi fin que Honor.
Que le Honor.
C'est dingue.
C'est dingue quand même.
Pour le coup, ils ont une avance technologique assez spectaculaire.
C'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient être annoncés ?
Comme d'habitude, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Qui en a en concurrence avec l'Apple Watch Ultra, qui vaudrait pareil dans les 600 ou 800-900 euros, et à des nouveaux Buds, des Buds qui reprendraient exactement le design des AirPods Pro. Parce qu'on sait, de base, Samsung fait des Buds qui sont juste des petits boutons qu'on met dans l'oreille. Mais là, ce serait un bouton avec une tige, exactement le même design que les AirPods Pro. Donc voilà, ce serait tout ça qui serait annoncé le 10 juillet, sans oublier la fameuse petite bague connectée, la Galaxy Ring.
Ah là là, celle-là, là, maintenant, ils nous l'ont assez teasé, il faut qu'elle sorte. Hein.
C'est clair.
Ouais.
Bah, on l'a vu, enfin, vous l'aviez vu au Mobile World Congress, elle était sur le stand Samsung, mais il n'y avait pas le droit de la toucher, je crois.
Cloche, c'est ça. Tu vois, tu ne pouvais pas la toucher. Ouais. Là, il y a une petite fuite, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu le boîtier de recharge de la montre, de la bague.
Ah ouais.
En fait, c'est comme un boîtier d'AirPods. Tu ouvres, tu poses ta bague dedans, tu fermes et elle se recharge.
Okay.
Et on parle d'une autonomie de 9 jours pour cette bague.
C'est pas mal.
Pour l'instant.
Ouais. Voilà. En même temps, c'est normal parce que ça consomme moins.
Mais bon, après les bagues, c'est compliqué parce que tu as plusieurs tailles de doigts. Enfin, ça va être un enfer.
Ah, bah c'est ça.
Il sort en magasin obligatoirement ou alors il faut imprimer un patron pour rester chez soi. Enfin,
c'est pas anodin, hein, cette histoire-là. Donc, bon, on verra ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ça devrait être révélé le 10 juillet. Et comme le dernier de quoi je me mêle sera la semaine d'après, on pourra tout vous débriefer.
Parfait.
Tu pars quand en vacances
Le 20, quelque chose comme
Voilà,
donc je serai là.
Top. Voilà, pour vous dire, on est là jusqu'au. Je pense que ça sera le dernier de quoi je me mêle sera le 19 juillet, je crois. Voilà pour Samsung. C'est pas terminé. Il y a encore plein de choses dans l'actu. Avec Apple. Parce qu'il y a eu quelques petites informations concernant Apple. Avant de parler du Vision Pro, ça serait peut-être pas mal, JB, que tu nous racontes un peu comment s'est passée cette WWDC en quelques minutes. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé. Hein. On a fait un de quoi je me mêle spécial la semaine dernière. Tu y étais ?
Oui.
Alors, c'était toujours aussi cool.
Toujours aussi cool.
L'Apple Park.
Génial.
Je t'ai vu avec encore tes petits selfies là.
Tim
Cook, tout ça.
Tim Cook.
Non, pas cette année.
Pas cette année.
J'ai discuté avec lui rapidement, mais on n'a pas fait de photo. Il a pas voulu. Non, je rigole. On n'a pas pu. On n'a pas eu l'occasion. J'ai eu la possibilité d'aller à Infinite Loop. Vous savez, c'est l'ancien siège d'Apple, parce qu'il y avait justement la Swift Student Challenge, qui en fait récompense les étudiants du monde entier qui codent et qui font leur application.
Moi, j'y suis allé une fois à Infinite Loop.
Et
j'ai même mangé à la cafette.
Wow. Pas mal.
Pas mal.
Moi, j'ai mon petit déj à la cafette. Mais en tout cas,
et j'ai pris une pomme en dessert.
Non, j'ai pas pris une pomme, mais je peux vous raconter un truc, c'est que évidemment, bon, cafette sympa et tout, tu vois, avec une terrasse dehors, enfin, et puis en plus, il fait toujours beau là-bas, donc c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. Et t'avais des gars qui faisaient des pizzas, t'avais un vrai four à pizza, et mais je te parle de ça il y a 10 ans, hein, et ils avaient inventé une espèce d'emballage à pizza que Steve Jobs avait validé.
C'est breveté. C'est une boîte à pizza ronde.
Mais non.
Oui.
Parce qu'ils se sont dit, pourquoi faire des boîtes à pizza carrées quand une pizza est ronde ?
Et tout a été calculé pour que ta pizza reste croustillante, reste chaude. Donc, il y a des petits trous. Enfin, c'est un truc...
Génial.
Non, mais incroyable.
Pizza.
et c'est pour te dire jusque dans le, enfin le comment dirais-je,
le souci du détail.
Le souci du détail et l'histoire en fait, le storytelling chez Apple va même dans les emballages à pizza de la cafesse. Ah ouais, c'est quoi. C'est incroyable.
Mais non, c'était une conférence très riche en annonces logicielles, à la fois sur la partie développeur bien sûr, mais surtout sur la partie logicielle que nous on va utiliser au quotidien. Et le maître mot, ça a été la fameuse Apple Intelligence, l'IA d'Apple, AI, Apple Intelligence, ils sont très forts côté marketing.
C'est clair.
Qui sortira l'année prochaine en France. On a largement le temps de voir. Ça commencera à
Et puis l'année prochaine, ça dure un an. Hein.
Ouais.
C'est pas mal comme l'année prochaine, ça dure un an.
C'est ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être janvier 2025 comme décembre 2025.
Ouais, bien sûr. Mais ça commencera à sortir aux États-Unis à la rentrée avec iOS 18. Sur certaines fonctionnalités qui vont se débloquer et petit à petit d'autres arriveront sur les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max uniquement. Donc voilà, si vous avez un iPhone 15 ou 15 Plus, vous n'aurez rien.
Ouais, c'est ça, ils sont malins aussi là-dessus, ouais, c'est clair.
Et sur iPadOS 18 et tous les Mac depuis les Mac M1, c'est pour le coup, ça me fait vraiment penser à Copilot Plus. C'est-à-dire qu'on a de l'intelligence artificielle mise dans les logiciels que l'on utilise chez Apple avec Keynote, Page, Mail, Safari, tout ça. Et on peut créer des images, on peut créer ses propres émojis, on peut faire plein de choses avec.
C'est quoi ? Il y a une feature qui t'a plus marqué, un truc voilà, que les autres ne font pas et que...
Parce que tu l'as pris en main, en fait. C'est
ouais,
ça,
j'ai une grosse démo
en avant-première, en fait, des ouais, fonctions d'intelligence.
Exactement, ouais. Et en fait, j'ai une démo complète de tout ce que ça peut proposer. J'ai été vraiment bluffé, c'est bête, hein, mais par la création d'émojis. J'avais jamais vu ça auparavant. Et comme on sait que les émojis Apple sont vraiment très clean, là, on dit, bah voilà, je veux un émoji d'un enfant qui mange une pizza dans sa main droite avec un chapeau de cow-boy et des lunettes, je sais pas, en triangle. Et on doit avoir ce petit emoji qui serait créé instantanément. Il y a autre chose qui sont...
C'est rigolo ça, c'est anodin, mais, ouais. mais c'est pas fort. Tant que ça, je pense.
Parce, oui, parce que c'est
quand
le genre
tu vois
de truc
les gens
que...
ouais. communiquent en... tout le temps ouais. avec ça, ouais. tu vas pouvoir te créer tes propres emojis, ça peut être cool, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Et en même temps, tu te dis, utiliser la puissance que tu as dans ton téléphone pour
créer des emojis.
Non, mais c'est dérisoire, mais tu as tout à fait raison. Je pense que c'est le genre de fonctionnalité qui peut faire un.
Ouais, qui peut faire le. Ouais.
Il y en a plein d'autres. Après, en fait, Apple n'a rien inventé. Ils ont juste pris exactement ce qui se fait chez d'autres et l'ont mis chez eux avec leur propre logiciel. On va pouvoir enfin effacer des éléments en arrière-plan de photos.
Ouais.
On va pouvoir rechercher avec des mots précis des photos dans toute sa bibliothèque photo. On va dire, par exemple, je cherche une photo où j'étais avec telle personne, où il y avait un chat dessus, un chat qui était blanc et noir, et il va nous trouver exactement les bonnes photos en fonction de nos mots.
Ça, c'est pas mal.
Surtout...
Sans que tu aies prénoté les photos, en fait,
ouais.
c'est ça.
Et surtout, la grosse différence, c'est Siri.
Enfin, Google le fait
enfin,
depuis
ouais, c'est ça,
lurette,
c'est
hein,
ça.
Enfin, passe en, vraiment en étant intelligent, parce que Siri, c'était vraiment...
Ouais, t'es à la traîne.
Ouais, il était vraiment à la traîne, et il est toujours aujourd'hui, et il sera encore pendant quelques mois, le temps que ça se mette à jour. On pourra enfin parler à Siri exactement comme on parle à ChatGPT par exemple.
Et on t'as pas pu tester ça ?
Si, si, ils nous ont fait une petite démo.
Et justement,
alors ? Et ça marche extrêmement bien parce qu'il suffit de parler et instantanément il nous répond. Et on peut se tromper en parlant, rectifier en parlant à Siri ce qu'on est en train de dire. Il va le comprendre et nous répondre exactement sur ce qu'on est en train de lui dire.
Ça, c'est pas mal.
Et là où ça va plus loin, c'est qu'il va en fait, un peu comme ce qu'on voyait avec Microsoft qui a été un peu annulé, je crois que c'était Recall, c'est ça ?
Oui.
C'est qu'en fait, en temps réel, il va savoir qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Et on va lui dire, ben voilà, dis-moi qu'est-ce que c'est ce fruit qui est sur l'écran. Boum, il va nous dire qu'est-ce que c'est que ce fruit. Ou alors, trouve-moi une recette de cuisine à la base de ces éléments qui sont là. Ou trouve-moi la façon dans mon iPhone pour, par exemple, supprimer tel réglage. Il va nous donner exactement la liste complète de A à Z pour aller dans les réglages et faire ça. Et ça marche vraiment bien, pour le coup. Et c'était demandé. Parce que Siri, pour le coup, était le bien dernier dans la liste des assistants intelligents.
Enfin, ouais. Marc, moi j'ai un Alexa chez moi là.
Ouais, c'est pas fameux non plus.
Là, non, mais c'est là que tu vois quand même la vitesse à laquelle
même Google
ça
Home,
va.
Bah, moi j'ai un Google Home chez moi.
Bah, c'est clair. Non, mais c'est mort tous ces trucs. Enfin, faut qu'ils le réinventent en utilisant maintenant l'IA générative.
Ils vont plus se mettre à jour de toute façon.
J'imagine.
Amazon en a parlé depuis plusieurs mois.
Ouais, absolument.
Donc, je pense
mais il faut qu'ils sortent. C'est bizarre qu'ils les aient toujours pas sortis
ça
pour l'instant.
Ça doit mijoter, je pense.
Ouais, mon réveil par exemple, c'est un réveil Alexa là. Donc je me faisais la réflexion encore parce que tu lui demandes réveille-moi à telle heure, mais si tu te plantes ou quoi, faut que tu refasses la demande. Tu vois, tu peux pas te reprendre. Ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire tu peux pas refaire une phrase. Ah non, je me suis trompé, c'est ça. Il faut que tu recommences. En fait, tu lui parles comme si tu faisais une recherche sur Google, en fait. Quoi.
Et finalement, on perd beaucoup plus de temps.
Exactement.
Donc tout ce qui arrive avec Siri sera uniquement dans les iPhones qui seront compatibles, mais les HomePod n'auront pas ce nouveau Siri.
Oh là là.
Qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, Siri, je l'utilise que avec mes HomePod, j'utilise très peu avec mon iPhone.
C'est là où on ne comprend pas, parce que, en fait, là, Siri, ça va être du réseau.
Ouais.
Finalement, l'HomePod pourrait être compatible avec ce nouveau Siri, puisque c'est simplement.
Ils ont besoin de puissance, de ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que la puissance des iPhones, des Mac et des iPads.
Attends, le nouveau HomePod, il est sorti il n'y a même pas un an.
Mais ce n'est pas une puce à 17 Pro ou M1, M2, M3 qui est intégrée. Donc, on se dit, bah voilà, Apple va enfin sortir un nouveau Siri, peut-être avec un écran. Ouais. Mais encore une fois, il faudra tout racheter.
Parce que c'est quand tu vois le prix de ces tous ces trucs-là, ils abusent quand même.
C'est clair. Ouais. D'autant que l'argument qu'ils mettent en avant pour le fait qu'il y ait besoin d'une puce A17, c'est de dire, en fait, c'est pour que ce soit en local, en fait.
Ouais.
C'est ça le truc. Donc tu pourrais te dire, bah, en fait, à partir du moment où tu es connecté, où ça passe par le cloud, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir.
Il y a pas mal de choses local, quand même dans toutes ces démonstrations, certaines qui passent par le cloud.
Ouais, mais Siri, c'est, Siri, c'est pas du local, cloud, je crois.
C'est pas du local, mais par exemple, quand on va demander des choses sur le téléphone en lui-même, ça va quand même être en local.
Ouais.
Comme ils ne veulent pas, je crois, faire plusieurs Siri différents, ils ne veulent en faire qu'un seul.
Ouais,
ils veulent le déployer de la même façon sur chaque produit.
Bon, après, j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons. Hein. Ils ne font pas ça simplement pour qu'on puisse changer d'appareil.
Non, ça peut jouer quand même.
Oui, c'est vrai, ça peut jouer. En même temps que je parle,
ouais, c'est ça. Oh, ils feraient pas ça. Ils nous feraient pas ça quand même. Oh, bah, si, peut-être quand même.
Finalement.
Ouais, c'est pas.
Bon, voilà pour ce.
Et surtout, pour conclure, il y a ChatGPT qui arrive en partenariat avec Apple.
Ouais,
c'est la grosse rumeur. Est-ce que c'est ChatGPT ou pas? Et c'est bel et bien.
Tu as vu Sam Altman ou pas? Parce que Nico Lelouch l'a vu.
Qui a fait quoi?
Sam Altman, le patron d'OpenAI.
Je l'ai vu de loin, oui. Il était très loin, mais je l'ai vu de loin.
Ouais, il était caché, enfin caché. Voilà.
Ouais, il marchait dans les allées, il était à la conférence. Ouais.
Top. Bon, on va marquer une petite pause. On revient pour notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Bientôt, peut-être la fin des vols de téléphone. Vous savez que les constructeurs de smartphones essaient de trouver la parade pour rendre inopérant en fait un téléphone qui a été volé. Il y a plein de petites astuces technologiques qui sont mises en place. On en parle dans un instant. Ce sera l'un des sujets de notre deuxième partie de quoi je me mêle. Merci d'être là. À tout de suite, bien évidemment.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
La deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là, radio, télé, replay, podcast. Merci de nous suivre en tout cas et j'espère que vous passez un bon week-end. Toujours Anthony Morel qui est à nos côtés pour commenter l'actu, journaliste à BFM Business qu'on ne présente plus, le pilier, je le disais, de
pilier
cette
de
émission.
Ah non, de l'émission.
Ah non, de bar, ça je sais pas. Non,
non,
je pense
non,
pas.
Non, en plus.
T'as une vie super saine, t'es tout le temps en train de courir toi.
Ah bah ça empêche pas. Hein.
Je suis sur ton Insta, t'es tout le temps en train de courir.
C'est parce que c'est les seuls trucs que je poste sur Insta. J'ai une vie à côté quand même, mais c'est vrai que c'est le seul truc, c'est les seuls trucs intéressants de ma vie finalement, qui est finalement assez mort.
Oh non.
Mais non, pas du tout. Non, mais ça prouve en tout cas que t'as une hygiène de vie top.
Mais une petite bière après la course, c'est bien.
Ouais, c'est vrai.
Ah,
c'est vrai.
Ouais, parce que tu la savoures encore plus.
Et oui,
quand t'as bien couru, t'es
après
vraiment
l'effort.
Bien. Bah, voilà, le réconfort, tu l'as mérité.
Forcément. Et Jean-Baptiste de JB, donc de The E-Connection. Son petit nom, c'est Jean-Baptiste Nicolet, que vous retrouvez évidemment sur sa chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, qui suit l'actualité tech, alors avec une primeur pour Apple, mais pas que, tu parles de plein d'autres sujets. Et on va là parler peut-être de toutes les parades que mettent en place les constructeurs de téléphones pour essayer d'éviter le vol de smartphones. Et on le voit, Apple fait plein de choses.
Ouais.
Aujourd'hui, vous volez un téléphone qui est bloqué avec votre Face ID, etc. C'est compliqué aujourd'hui de le craquer. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils y arrivent d'ailleurs.
Très compliqué.
Plus qu'avant. Ouais.
Après, il y a le marché de la pièce de rechange.
C'est
en
ça,
fait, après, ils démontent les téléphones, ils partent un peu partout et voilà. Mais bon, enfin voilà, les constructeurs essaient de complexifier tout ça pour dissuader en fait les voleurs de smartphones.
Bah, c'est vraiment ça. En fait, on n'arrivera jamais à un monde où on arrête les vols à proprement parler parce que c'est ce que tu disais. Tu peux quand même revendre les pièces détachées. Mais simplement, le téléphone, lui, va se transformer en brique inutilisable. C'est vraiment ça l'enjeu. Avec l'idée que pour les voleurs, c'est quand même beaucoup moins intéressant parce que c'est plus compliqué quand même de devoir ensuite dépiauter le téléphone. Et puis, c'est moins intéressant aussi d'un point de vue financier. Et c'est vrai qu'il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver pour rendre les téléphones inopérants une fois qu'ils ont été volés. Et ça va même plus loin que ça puisque Google a annoncé pour les téléphones Android, alors c'est pour tous les modèles qui sont équipés de la version 10 ou plus, donc sorti 2019 et après, donc c'est quand même
large,
c'est
cool.
Pas Apple.
Et voilà, pour le coup, c'est pas Apple. Une fonctionnalité qui va permettre en fait au téléphone de comprendre qu'il est en train d'être volé et donc de se bloquer à ce moment-là. On va utiliser pour ça les capteurs à l'intérieur du téléphone couplés à de l'intelligence artificielle. Et donc en gros, Si on t'arrache le téléphone, bah, les capteurs de mouvement vont comprendre qu'il y a un mouvement brusque. Si juste derrière le mouvement brusque, tu as quelqu'un qui se met à courir, en gros, il va en déduire qu'il y a eu un vol à l'arraché.
Oui, parce qu'il y a des géologues, je pense aussi.
Exactement. Et donc, il va se verrouiller automatiquement. Donc ça, c'est un des éléments. Mais je trouve que c'est assez malin. Tu vois, ce truc de... Tu es en train d'utiliser ton téléphone, tu te le fais voler à l'arraché. Le cas assez classique dans la rue, dans le métro. Et là, le téléphone va comprendre de lui-même et il va se bloquer automatiquement. Sachant que c'est, j'allais dire, une première étape, puisque Google et d'autres, d'ailleurs... travaille sur ce qu'on appelle la biométrie comportementale. Moi, c'est un truc qui me passionne, la biométrie comportementale. Biométrie, on connaît, c'est reconnaissance des empreintes digitales, reconnaissance faciale. Bon, c'est notre signature, la signature corporelle. La biométrie comportementale, c'est de dire que demain, ton téléphone saura que c'est toi qui l'utilises sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit parce que tu as une signature unique dans la façon dont tu l'utilises. C'est-à-dire que par exemple, quand tu tapes des mots sur ton téléphone, quand tu tapes le prénom François, par exemple, je pense que tu le tapes d'abord plus vite que moi parce que tu as plus l'habitude de le taper. Et puis peut-être que tu ne vas pas mettre la même pression des doigts à chaque endroit, sur chaque touche, etc. Tout ça, alors ça, c'est ce qu'on appelle la frappologie. C'est une signature qui nous est unique. La façon dont tu marches dans la rue, la vitesse à laquelle tu marches. Il y a énormément d'éléments qui vont constituer une signature qui nous est unique et qui va faire dire au téléphone, là, c'est bien François Sorel qui est en train de m'utiliser. Et s'il y a des éléments qui changent, eh ben c'est peut-être plus lui. Et à ce moment-là, je vais demander à l'utilisateur d'utiliser la reconnaissance faciale ou d'avoir une authentification plus forte. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups parce que tu sais, ton prénom, peut-être qu'à un moment, tu vas te planter, tu vas riper, à un moment, tu vas marcher plus vite ou moins vite. En fait, la biométrie comportementale, c'est un truc qui va te donner un score qui va de 0 à 100 de certitude que c'est bien toi qui es en train d'utiliser ton téléphone. Plus il est élevé, bah plus ça va et on va être convaincu que c'est toi qui l'utilises. Et si ça baisse, à ce moment-là, on va se dire c'est quelqu'un qui l'a piqué ou quelqu'un qui est en train de l'utiliser qui ne devrait pas l'utiliser. Et à ce moment-là, on va te demander reconnaissance faciale ou reconnaissance des empreintes digitales.
Si on prête un téléphone à quelqu'un.
Alors soit tu peux à ce moment-là tu peux le configurer pour pouvoir le prêter à quelqu'un éventuellement.
Mais ou ça alors se prête tu fais rarement, un téléphone,
oui
en
ça
plus.
Se prête rarement ou alors
les parents à leurs enfants souvent prêtent le téléphone.
Ouais, alors à ce moment-là, je pense que ce sera configurable. Ou alors, tu peux, pour le coup, faire avec de l'authentification forte. Tu fais reconnaissance faciale, puis tu donnes ton téléphone à ton enfant et il peut l'utiliser.
Ça existe déjà aujourd'hui ?
Non, là, ça, c'est des tests qui sont en train d'être réalisés. Donc, c'est des fonctionnalités qui vont arriver probablement dans les mois ou années qui viennent. La première dont je vous parlais, par contre, la détection du vol, etc. Ça, oui, ça c'est déjà le cas. En tout cas, ça a été annoncé par Google vraiment très officiellement. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont annoncé toute une batterie de fonctionnalités anti-vol. Tu en as d'autres, par exemple, si le voleur déconnecte le téléphone pendant longtemps, c'est pour éviter qu'on puisse le localiser, par exemple.
Au moment d'avion et autres.
Voilà. Ouais. Et bien là aussi, le téléphone va se verrouiller automatiquement. Il va se dire, il y a un truc qui est bizarre. Il se verrouille. Il va demander une authentification forte. Là encore, l'enjeu, c'est que la personne n'ait pas accès à toutes tes données, etc. quoi. Donc, je trouve c'est intéressant de voir un petit peu toutes ces batteries de mesures qui sont mises en place pour rendre nos téléphones plus difficiles.
Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on puisse aller sur le téléphone d'un ami s'identifier entre guillemets sur son téléphone et le bloquer à distance. Ouais. Ça se fait aujourd'hui chez Apple de pouvoir avec son iCloud se connecter à son iCloud via un autre téléphone, mais là de pouvoir le faire chez Android et avec Google c'est vachement.
Et je crois qu'on peut même le faire par SMS, d'après ce que j'ai compris.
Ah ouais.
C'est-à-dire que tu prends le téléphone de quelqu'un et tu envoies un SMS avec je sais pas quoi un code ou je sais pas quoi, mais ça bloque ton téléphone à distance.
Mal, ça c'est pas mal.
Enfin, je crois avoir lu ça.
Intéressant aussi, ouais.
Mais on voit en tout cas que c'est un vrai sujet.
Ah ouais.
Bien sûr.
Quand tu vois l'explosion des vols de téléphones absolument partout.
C'est testé au Brésil.
Moi, je ne me suis jamais fait voler. Oui, absolument. Ils ont testé ça au Brésil.
Parce que, évidemment, c'est un pays où il y a beaucoup de pickpockets et beaucoup de touristes, effectivement, un peu comme partout. Mais voilà, il fallait un pays, je dirais, test.
C'est ça.
Et c'est le Brésil pour l'instant.
Tu as déjà volé un téléphone ?
Non, j'ai perdu un téléphone dans un taxi.
Mais ah, Vegas aussi.
Ouais. Oui.
Bah, on l'avait raconté.
Mais c'était pas celui-là.
Ah non, c'était encore un autre.
Non, parce que celui-là, je l'ai retrouvé.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Mais non, une fois, il y a une dizaine d'années, j'ai perdu mon iPhone, je l'ai laissé dans le taxi. Impossible de le retrouver.
Et tu l'avais localisé ou pas ? Parce que moi, j'ai perdu un téléphone.
Je ne l'ai pas localisé, non. Ouais. Je n'étais pas arrivé.
Moi, c'était en faisant du vélo. Où mon téléphone est tombé et je m'en suis rendu compte genre 20 minutes après. Donc j'étais du côté du bois de Vincennes et tout. Donc, je suis rentré chez moi en catastrophe. J'ai utilisé la localisation et donc il me l'a localisé dans un rayon de 100 mètres. Je suis retourné à l'endroit et je l'ai retrouvé.
Wow. Voilà.
Donc ça, c'était vraiment cool. J'étais content.
Ça, c'est super pratique. Hein,
il était resté, il était vraiment en évidence, oui. N'importe qui aurait pu le prendre.
Et mais je personne n'est passé ou...
bah, ouais, soit personne n'est passé, ou soit, franchement, encore une fois, c'est ce qu'on se disait, maintenant, les téléphones, quand tu prends un téléphone que tu trouves par terre, en fait, c'est une brique, tu oui, peux oui, rien faire avec.
Ça sert
quoi.
À rien.
Donc, à part si t'as vraiment un mec qui est intéressé par revendre les pièces
après,
détachées...
Après, bah... si t'es honnête, tu le prends et tu le ramènes au commissariat,
ouais,
ou
évidemment.
Alors tu... Enfin, voilà,
bien
tu
sûr.
Vois, c'est,
bien
c'est,
sûr, bien
c'est
sûr.
Ça aussi. Bon, tout ça, c'est cool. On va parler maintenant de ChatGPT et notamment GPT-4 qui est... alors, vous savez qu'il y a GPT-4, il y a GPT-4O qui est, on va dire, la version la plus évoluée de cette intelligence artificielle générative d'OpenAI. Et tu voulais nous parler d'un test qu'a passé GPT-4.
Oui, absolument. C'est le test de Turing. Alors, ça vous parle peut-être, le test de Turing, pour ceux qui...
La machine de Turing.
Alors, exactement, la machine de Turing... Ouais. Alan Turing, je pense que tout le monde connaît ou a au moins entendu parler, hein, donc un génial père de l'informatique, ou enfin, l'un des pères fondateurs de l'informatique et même de l'intelligence artificielle. On parle quand même des années 50, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui était... Puis c'était un génie absolu. Enfin bon, peut-être vous avez vu le film The Imitation Game. C'était un très bon coureur aussi, accessoirement. On pourrait le marathon en moins de 3 heures quand même, Alan Turing. Et il n'avait pas les plaques carbone, hein, il avait des chaussures des années 50. Hyper impressionnant, le gars.
Enfin, vraiment, il était... bien après.
Hein?
Et il buvait des bières après.
Et il buvait probablement des bières après, je sais pas, mais en tout cas, non, mais c'est vraiment un mec absolument extraordinaire, Alan Turing, évidemment. Et en fait, il avait conçu en 1950 une expérience, en gros, pour prouver qu'une machine est intelligente, disait-il. Eh bien, il faut... Alors, c'est l'expérience qu'il avait imaginée, donc un chatbot, enfin un agent conversationnel, qu'on fait discuter avec un être humain, à l'aveugle, et si la machine arrive à faire croire à l'humain qu'il est en train de discuter avec un humain et non pas avec une machine,
il
passe ce test. Ou plutôt, si 30% du temps, 30% des êtres humains se font avoir par la machine, alors ça, le test est passé. En gros, c'était ça les conditions au bout de 5 minutes de conversation. Et donc ça, c'était une sorte de graal, ou en tout cas une étape importante dans le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que le degré de sophistication du langage, de la sémantique utilisée, du ton, etc., est suffisamment réaliste pour passer ce fameux test de Turing?
Pour qu'on se fasse avoir, quoi.
Pour qu'on se fasse avoir, pour qu'on se fasse tromper par la machine. Et donc là, ça a été réalisé, alors pour la première fois, c'était inéluctable, je veux dire, avec les avancées technologiques de ChatGPT, mais là, dans des conditions expérimentales. C'est-à-dire que c'est des chercheurs de l'Université de San Diego. Ils ont pris 500 cobayes, entre guillemets, ils les ont divisés en 4 groupes. 3 groupes qui discutaient, à l'aveugle hein, évidemment, avec des IA. Donc tu avais la première version de ChatGPT, la dernière version, et tu avais un autre chatbot qui s'appelle Elisa, qui est le premier chatbot qui a été conçu dans les années 60. Et puis le dernier groupe, lui, discutait avec des êtres humains. Et donc personne ne savait avec qui il était en train de discuter. Et en fait, sur
le test
à l'aveugle, exactement, et en fait, parmi ceux qui ont discuté avec GPT-4, 54% ont cru qu'ils étaient en train de discuter avec un être humain. Donc le test est passé. Ça veut dire que la machine est capable de tromper l'homme de manière significative dans des conditions expérimentales. Donc c'est un jalon, si tu veux. Voilà, c'est une sorte de graal technologique qui a été atteint. On se doutait que ça allait arriver. C'est arrivé. Et donc ça nous montre bien, encore une fois, à quel point l'IA a avancé avec à la fois tout le potentiel. Tu peux imaginer un service après-vente où tu saurais même plus que tu es en train de discuter en fait avec une machine, parce que voilà, encore une fois, le test a été passé et donc tu as l'impression d'être en train de discuter avec un autre humain et c'est pas le cas. Et on peut imaginer aussi toutes les dérives potentielles, parce que tu peux te faire passer potentiellement pour n'importe qui, ouais, avec un très grand degré de réalisme.
C'est clair. On se dit, tiens, on dit, ouais, mais moi, si je le fais, je découvrirai, etc., etc. Mais en fait, on peut imaginer que les personnes qui l'ont testé, à 54%, se sont fait avoir.
Absolument.
Voilà. Alors, on pourrait se faire avoir.
Si vous pensez que vous ne vous feriez pas avoir, vous pouvez tester un site qui s'appelle Human or Not. Et Human or Not, en fait, c'est ça. C'est tu fais le test de Turing. C'est-à-dire que tu discutes pendant 2 minutes avec un chatbot ou un humain, mais tu sais pas, en fait.
Ah, okay.
Donc, tu racontes ce que tu veux et lui, il te répond ce qu'il veut. Voilà. Et au bout de 2 minutes, tu dis, alors, on te pose la question, est-ce que tu étais en train de discuter avec un humain ou avec une IA, à ton avis? Donc, tu donnes la réponse et il te dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, c'est assez marrant. Moi, je l'ai fait. Je sais pas, j'ai dû le faire 10 fois et je me suis planté un certain nombre de fois. Donc, c'est assez... Parce que tu as des humains qui essayent de se faire passer pour des machines. Ouais. Tu as la machine qui essaye, elle, de se faire passer pour un humain. Enfin, c'est assez compliqué. C'est rigolo comme jeu. Human or Not, vous pouvez le tester sans aucun problème.
Ouais, tout ça est vertigineux. Hein,
c'est assez vertigineux.
Et quand on sait qu'on est qu'au début de tout ça...
Ouais. Et d'ailleurs, tu as les mecs qui te disent maintenant il faudrait créer un test de Turing, mais plus perfectionné, parce que maintenant, on a passé.
Sûr, vrai, ouais.
Et tu as notamment Mustapha Suleiman, qui est le créateur, le cofondateur de DeepMind,
De Google,
qui dit en fait, maintenant, la prochaine étape, c'est demander à une IA de générer $1 million de manière totalement autonome. C'est-à-dire, en gros, tu lui donnes $100 000 au départ et tu dis tu te débrouilles. Voilà, tu me crées un produit, tu me l'inventes, tu gères les fournisseurs, la logistique, tu le vends sur Internet sans intervention humaine. Et si elle arrive à générer $1 million, là, on aura franchi un pas supplémentaire.
C'est passionnant.
C'est pas mal, je trouve.
Ouais, ah, ça va loin. Hein.
Là, ça va loin.
Wow.
Ah, c'est un vrai test. Puis c'est un test intéressant, là, pour le coup. Tu vois, l'IA qui pourra te générer $1 million,
oui. Pas mal. Mais bon, il faut mettre 100 000 au départ.
Il faut mettre 100 000 au départ.
Et là, si elle marche pas, tu peux pas l'engueuler. Qu'est-ce que tu
c'est
fais
ça. Tiens, bah, j'ai raté le test. Voilà, qu'est-ce que tu veux.
Il nous reste 3 minutes. Anthony et JB, on va peut-être parler aussi de Nvidia parce que c'est quand même la semaine d'Nvidia.
Hein, c'est fou. Ouais.
Qui est devenu le roi, le roi des entreprises technologiques et le roi de l'IA. Hein, on le sait. Et là, il y a un symbole qui a été franchi. On parlait justement du test de Turing. Bah, finalement, ça, c'est le test financier de Nvidia qui est devenu, Anthony, cette semaine, la première capitalisation boursière devant Microsoft et devant Apple.
Oui, absolument. C'est un symbole, vraiment, parce que Nvidia, qui aurait pu imaginer ça il y a encore 2 ou 3 ans, Nvidia, ça a toujours été une très belle entreprise technologique que nous, on suit parce qu'on est technophile et que ça nous intéresse.
Mais que le grand public ne connaît pas du tout.
Que le grand public ne connaît pas du tout.
Très peu, très peu.
Aujourd'hui, même j'ai vu...
Alors les fans de jeux vidéo, oui.
Oui, les fans de jeux vidéo.
Tu t'achètes une puce Nvidia.
Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous aviez vu ça, c'était il y a quelques semaines. Tu avais un article de BFM TV, c'est la même maison, donc on précise, mais qui disait Nvidia, cette entreprise méconnue du grand public qui a explosé et tout. Et ils se sont fait allumer sur les réseaux sociaux. Les gens étaient, c'est juste une des plus grosses entreprises technologiques. Mais en fait, oui, c'est vrai, mais sauf que dans le grand public, demander à 100 personnes dans la rue s'ils connaissaient Nvidia,
non.
Je vous assure,
mais bien sûr,
mais vraiment, il y a 90% des gens qui ne connaîtront pas. Tu as ceux, effectivement, qui sont fans de jeux vidéo, pour le reste, et ceux qui s'intéressent à l'actu, etc. Mais sinon, ça reste encore une entreprise qui est, entre guillemets, confidentielle, mais qui est devenue la plus grosse capitalisation mondiale. Ce qui montre bien, parce que eux, c'est eux qui fournissent, en fait, la matière première, la matière grise de l'intelligence artificielle, que dans toute ruée vers l'or, les vainqueurs, les vrais vainqueurs, c'est les marchands de pelles et de pioches.
Oui.
Or, les pelles et les pioches de la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, clairement, c'est Nvidia. Donc, ils sont dans une position géniale. Même s'ils sont concurrencés, il y a des entreprises qui commencent à arriver sur le marché. Mais enfin, ils ont une avance technologique qui est quand même assez...
On les retrouve dans les PC copilotes depuis Nvidia ou pas du tout?
C'est une bonne question, je crois pas, parce que c'est du... Qualcomm, ouais. je ne pense pas.
Non, alors après, par contre, tu as du Nvidia dans les serveurs.
Oui, dans les serveurs de ChatGPT, etc.
Voilà, et donc quand tu es sur Copilot et que tu passes par le cloud pour certaines fonctionnalités, évidemment que tu vas passer par du Nvidia, ça c'est sûr. Parce qu'il faut rappeler que, en gros, c'est leurs puces, leurs GPU sont installés dans les serveurs et qu'il y a une bataille pour acheter. Aujourd'hui, c'est une des seules entreprises au monde qui peut choisir ses clients, qui peut dire, c'est comme les entreprises de luxe, tu vois, ils disent, ah, non mais vous, on vous fournira un petit peu plus tard, ok, on vous fournit maintenant. Tellement tout le monde veut acheter des puces Nvidia. C'est un truc de fou, en fait, ce qui se passe autour de cette
entreprise. Et toi qui suis ça depuis longtemps, tu l'avais vu venir qu'Nvidia aurait pu aujourd'hui, en 2024, devenir aussi gros?
Franchement, le truc, c'est toujours pareil. C'est le moment de ChatGPT qui a tout déclenché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ChatGPT a ouvert la boîte de Pandore, exactement, là, tu pouvais te dire, Nvidia, forcément, c'est eux qui vont tout faire tourner. Mais avant le moment de ChatGPT, franchement, c'était compliqué de le deviner, en fait.
Félicitations à Nvidia et à son fondateur
Jasper Ewing,
qui est génial en fait,
qui est un sacré personnage aussi.
Qui s'adapte en fait à toutes les innovations technologiques, etc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony.
Merci.
Anthony Morel de BFM Business. Merci à JB de The E-Collection. Si vous êtes avec nous à la télé, à la radio, ça s'arrête là. Mais si vous voulez avoir quelques minutes de bonus, le podcast audio de quoi je me mêle. On va parler avec JB d'un ballon connecté. C'est vrai que l'euro, ça y est, on y est. Il y a la techno qui arrive dans cet euro.
Et oui.
Ça sera notre module bonus. Merci en tous les cas de nous suivre. Et si vous ne nous rejoignez pas en podcast, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Salut à tous et ce sera avec Anthony Morel.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.